Bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Ici, on s'écoutait ». Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission, nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore sa relation à l'écoute ou un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute et le bien-vivre ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. Tous les types de projets sont les bienvenus. Donc auditeurs, vous qui nous écoutez ce soir, vous pouvez nous proposer votre projet. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue, du lien dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde aujourd'hui. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan en studio.
Bonsoir.
Et de Sidi en régie. Bonsoir Marion Milsan.
Bonsoir.
Et bonsoir à Pauline, qui est la cofondatrice de SWAG, un studio de danse urbaine inclusive par des talents venus d'ailleurs.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Très bien, je suis très contente d'être ici, c'est ma première radio de ma vie, donc je vis l'expérience avec vous, donc merci beaucoup pour ça.
Alors tu vas voir, ça va bien se passer, tu as vécu plein de choses, la radio c'est une nouvelle expérience, donc c'est chouette que ça soit avec nous ce soir, on est ravis en tout cas de t'accueillir. Comment tu te sens, comment tu vas en ce début de mois d'octobre ?
Je suis ravie, je suis en même temps très fatiguée, je vis énormément d'émotions en ce moment parce que là c'est une période assez charnière, il se passe plein de choses parce que du coup on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre de l'aventure de SWAG Studio qui nous fait vivre énormément d'émotions.
Et oui, en cette rentrée, parce que là, vous avez l'ouverture, mais tu vas nous expliquer tout ça en détail, mais il y a l'ouverture samedi prochain,
oui,
une soirée samedi d'inauguration.
Exactement, samedi 12 octobre à 19h.
Avant de commencer tout ça, est-ce que généralement on demande à nos invités de nous dire ce que le titre de notre émission, et si on s'écoutait, te parle, est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça évoque pour toi ?
Bien sûr, bah, si on s'écoutait, je sais pas, c'est un peu comme le défi d'une vie. Et moi, ça m'évoque que même si, enfin, moi, dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être vraiment écoutée, d'avoir quitté une voie dans laquelle j'étais, quitté les rails sur lesquels j'étais pour décider de faire complètement autre chose. Et en même temps, même en ayant fait ce choix-là, ça reste un défi de s'écouter parce que je pense que j'aime un peu trop le travail et ça devient parfois presque du masochisme. Donc en fait, c'est toujours une relation, c'est toujours un équilibre à trouver entre à la fois on s'écoute parce que moi je me suis écoutée parce que j'ai choisi de faire ce que je fais et j'aime ça. Et en même temps, même là-dedans, Tu peux aussi te perdre.
Parce que tu dis t'aimes un peu trop le travail. T'as toujours aimé le travail ?
Oui.
Okay. Les études aussi ?
Ouais. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais là en ce moment encore plus. Mais en tout cas voilà, ça m'évoque aussi ce truc de l'attention à soi. C'est pas forcément faire quelque chose. C'est pas forcément décider de faire quelque chose qu'on aime. C'est aussi dans le fait de faire quelque chose qu'on aime, comment on prend encore soin de soi. Enfin, c'est le fait que moi j'ai découvert cette année que les burn-out, c'était pas, ça n'arrivait pas qu'aux personnes qui n'aimaient pas leur travail. Mmh. Ça arrivait aussi beaucoup à des personnes qui adoraient ce qu'elles faisaient.
Oui, qui sont passionnées dans leur projet. Parce que c'est vrai, comme tu dis, on peut être à l'écoute de soi dans le lancement d'un projet, mais ensuite il faut continuer de s'écouter et de rester aligné lorsque le projet se met en œuvre et qui se développe.
Exactement.
Et donc sur le projet, donc vous êtes deux, mais juste pour les auditeurs qui te connaissent pas, comment tu peux décrire ton parcours ? Parce que donc on peut peut-être imaginer qu'après tes études, tu as été salarié et tu es venu dans le monde de l'entrepreneuriat ensuite, ou directement dans la grande aventure entrepreneuriale directement ?
Quasiment directement. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai monté un projet dans la danse. Qui s'appelle SWAG Studio, que je copilote avec Chloé Louisin, mon associée. Et en fait, moi, je viens pas du tout de la danse.
Qui es-tu ? D'où viens-tu ?
En fait, moi, j'ai découvert la danse assez tard. J'ai grandi dans un univers qui n'était pas du tout ni porté sur le corps, ni porté sur la musique. C'était plutôt l'inverse. Moi, j'ai été éduquée dans un environnement où on n'écoutait pas de musique, où même le fait de danser, de s'exprimer avec son corps, de bouger, ça pouvait même être jugé un peu comme vulgaire. Et donc voilà, il fallait lire des livres, milieu voilà, assez famille un peu d'intellectuel, quoi. Et j'ai un peu suivi cette voie-là. J'ai fait des bonnes études, j'ai fait une prépa littéraire ici à Marseille, à Thiers. Et ensuite, je me suis retrouvée en école de commerce. Alors, j'aime pas le dire parce que j'ai vraiment détesté cette expérience, mais je me suis retrouvée là parce que j'ai réussi les concours. Et ça m'a vraiment... ça m'a donné un peu l'horreur de tout cet univers où on te forme à travailler pour l'argent, à avoir aucune réflexion sur ta propre pratique, sur ton travail. Enfin, en tout cas, voilà aussi une ambiance de compétitivité, des dynamiques de groupe qui rendent aussi parfois un peu stupide. Donc moi, j'ai détesté ça et puis je voulais pas du tout faire les métiers pour lesquels on nous préparait, audit, conseil, finance, je sais pas quoi. Enfin, c'était pas du tout ma voie. Mais je suis quand même allée jusqu'au bout. Et après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai été un petit peu salariée, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Dans une entreprise qui faisait de l'informatique. Non, mais vraiment rien à voir. Mais ça m'a donné l'occasion d'aller vivre à Abidjan. Et donc c'était très bien. Mais voilà, rapidement, j'ai quand même eu l'idée de ce projet. Je suis revenue en France au moment du Covid. Et je pense, comme beaucoup de gens, j'ai eu un peu une remise en question. Et du coup, la jeunesse de ce projet qui s'est faite pendant le Covid... À un moment où on avait du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire pour de vrai.
Parce que la danse, du coup, elle était intervenue à quel moment dans tout ça ?
Alors, du coup, moi, j'ai découvert la danse pendant mes études. J'étais déjà adulte, je devais avoir autour de 22, 23 ans. J'avais jamais dansé de ma vie. Et j'ai découvert ça un peu par hasard. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'étais complètement fascinée par la danse. Et en même temps, je me sentais assez exclue parce que c'est hyper difficile. Et puis, il y avait aussi cette ambiance un peu de compétitivité. Donc, je me suis retrouvée dans un studio.
Un studio à Paris ?
Ouais. À ce moment-là, j'habitais à Paris. Et donc, je me suis retrouvée en milieu d'année. Et du coup, j'ai commencé par le dancehall. Et ouais.
Ok. C'était ça. Ok. Au studio émergé ?
Non, j'ai fait ça au Centre des Arts Vivants.
Okay.
Avec un prof que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Sanka. Mais c'était pas son enseignement, en fait, qui m'allait pas. C'était toute l'ambiance qu'il y avait dans le cours. Il y avait un côté un peu cours de récré. Je me suis pas vraiment sentie accueillie, à la fois parce que j'étais archi nulle. J'avais vraiment niveau zéro, quoi. Donc déjà, c'était difficile de trouver ma place. Et en plus, je me sentais pas hyper accueillie par les filles qui étaient là, quoi. Par contre, il y avait Chloé. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Chloé. Mmh. Chloé, c'est la seule qui était gentille avec moi de tout le cours.
Les Chloé sont gentilles.
Les Chloé sont très gentilles.
Et elle, pour le coup, en préparant l'émission, on s'est rendu compte avec Marion que Chloé, elle, pour le coup, la danse, elle fait partie de sa vie depuis toujours, quoi.
Oui, Chloé, elle dansait depuis toute petite. Et donc, elle avait pas la même gêne que moi dans le fait de trouver sa place. Mais par contre, on partageait le même constat sur le fait que tout le monde se prenait beaucoup trop la tête pour rien, quoi. Et que ça n'avait aucun sens que de sortir d'un cours de danse où tu te sens mal, plutôt que t'étais censée sortir et être heureuse d'avoir partagé quelque chose avec les autres. Donc c'est pour ça que dans le projet, elle m'a vraiment rejoint sur cette vision de faire de la danse un vecteur de partage et de lien social, plutôt qu'une compète qui n'a aucun sens, quoi.
Ouais, parce que je souhaite la genèse, c'est le constat que vous faites toutes les deux, c'est que la danse à Paris, elle est souvent marquée par la compétition dont tu parles entre soi, une performance individuelle souvent. Et donc vous avez eu envie de faire autre chose pour la danse.
Justement, est-ce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que c'est parce que Paris Est-ce que tu penses que ce genre de, d'ambiance, on pourrait la retrouver ailleurs dans d'autres villes ou c'est vraiment spécifique à Paris ?
Bah, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints sur ce constat. Et nous, on a démarré le projet à Paris, donc c'était essentiellement la communauté de personnes qui avaient découvert Paris. Mais en fait, même là, en développant le projet à Marseille, on retrouve aussi ça. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui aiment Afrovibe, qui, enfin voilà, ce mouvement de démocratiser et de désacraliser surtout. Je pense que c'est quelque chose qui fait du bien à beaucoup de gens parce qu'il y a quand même cette tradition dans la danse qui n'est pas qu'à Paris et surtout dans l'enseignement de la danse.
C'est-à-dire qu'il faut être bon, quoi.
Ouais, c'est de la performance, ouais.
Toi, tu l'as vécu un peu comme ça, Marion, toi qui fais de la danse aussi et qui en a fait à Paris.
En fait, c'est pour ça que je te pose la question parce que moi, j'ai commencé, enfin, toute ma vie, je l'ai faite à Paris. Moi, j'avais vraiment envie d'être danseuse à un moment donné, donc j'ai poussé le truc, j'ai fait une formation professionnelle justement pour aller au-delà. Et j'ai vraiment été confrontée à ce que tu disais, mais alors qu'avant, pas du tout. J'étais peut-être plus jeune aussi. Moi aussi, j'ai commencé par le dancehall et j'ai pas ressenti cette compétitivité. Mais à partir de ce moment-là, en effet, et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, mais c'est peut-être moi, mais à 15 ans, il y avait beaucoup moins ces réseaux sociaux qu'il y a maintenant. Et peut-être qu'il y a eu un peu ce truc, en effet, moi je venais en jogging un peu schlagos, quoi, tu vois. Ouais. Et il y en avait qui étaient là, tu vois, maquillés, en short, et j'étais en mode waouh, ok. Parce que généralement, à la fin, il y avait aussi souvent une vidéo pour les réseaux, tu vois, la communication, pour montrer la choré. Et ouais, je sais que ça a pu jouer, en effet. Enfin, du coup, tu sélectionnes les endroits où tu vas parce que tu sais qu'il y a une ambiance bienveillante.
Ouais.
Et donc je te rejoins un peu là-dessus, mais c'est pour ça que je me demandais est-ce que.
Ouais, c'est vrai que ça pourrait être propre à une ville.
Ouais, ouais. C'est vrai que t'as énormément de talent, t'as beaucoup de danseurs et t'as beaucoup d'écoles aussi qui sont proposées à Paris, t'en as peut-être moins dans d'autres villes.
C'est sûr, mais après, plus généralement, le rapport à la danse en France, il n'est pas forcément évident. Enfin, il y a beaucoup les gens qui démarquent quand ils sont petits, ça leur paraît évident. Et puis toutes les personnes qui ont envie de démarrer tard trouvent pas forcément leur place quelque part. Et en plus, nous, on n'est pas dans une société qui nous encourage à, mais je sais pas, à danser dans la rue. Il y a toujours cette gêne, un peu cette honte, qui est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre culture, quoi. Et donc c'est ça aussi que nous, on essaie de changer.
Je fais un topo parce que une fois, je suis partie pendant un an en voyage, et notamment 9 mois en Colombie. Et du coup, j'étais à fond, je voulais absolument prendre des cours de danse. Et il n'y avait que des cours de danse. Et du coup, à un moment, je suis une nana, je la trouve, et elle faisait du dancehall, c'est ce que je voulais faire. Et j'y vais. Et vraiment, c'était des cours de danse dans des centres commerciaux, quoi. Mais vraiment, je te jure, en plein centre commercial. Et tout le monde te regardait. Moi, j'étais en mode, ok, Marion, vas-y, c'est pas grave. Enfin, vraiment un truc de... Les gens n'étaient pas du tout gênés de faire ça. Et moi, j'étais vraiment... J'étais très gênée.
Mais c'est vrai que c'est assez culturel, j'ai l'impression, d'avoir ce syndrome un peu de l'illégitimité quand tu commences à faire de la danse. Enfin, tu vois, en France, on est un peu gênés, il y a une gêne. Bah, alors que dans d'autres pays, il y a une sorte de...
Alors ouais, déjà, je pense qu'en effet, la culture, bon, bah, en plus en Colombie, quand même, ils dansent beaucoup, la musique est quand même très présente dans leur culture, mais au-delà de ça, moi, j'étais même pas nouvelle, tu vois. Genre, c'était juste le fait de danser dans un centre commercial.
Ouais, c'est le regard de soi, le regard des autres,
où tu te dis, je sais pas, il y a quand même globalement une sécurité dans une salle qui est fermée avec des miroirs où... Tu vois, là, d'être un peu ouvert comme ça. Bon, je mets ça entre parenthèses, mais...
Non, mais clairement, mais nous, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur d'amener la danse en dehors du studio. On est un studio, mais en fait, on fait aussi énormément d'événements en plein air et qui sont aussi des événements engagés pour notre mission sociale, parce que c'est quand même, au-delà du coup de la démocratisation, du fait de démocratiser les danses urbaines, c'est aussi ça qu'on défend, même avant toute chose, c'est de défendre l'accueil. L'accueil des réfugiés, l'accueil des étrangers en France, quel que soit leur statut, et puis de donner une place à des gens qui arrivent et qui ont un talent à partager. Et parce que nous, la danse, pour nous, ça nous permet de faire ça, de casser les étiquettes et de s'appréhender autrement qu'en se demandant « tu fais quoi dans la vie ? Tu viens d'où ?» Et parce qu'en fait, quand on danse ensemble, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de savoir ça, on n'a même pas besoin de parler la même langue. Donc nous, c'est ça aussi qui nous intéresse dans la danse, c'est sa fonction d'outil politique.
Oui, c'est ce que vous disiez en préparant l'émission, c'est ce qu'on voyait, ce que vous disiez, c'est que c'est un outil politique la danse, que la danser c'est politique, enfin ça peut l'être en tout cas.
Bien sûr.
Et que vous en servez de cette manière aussi pour défendre des causes importantes aujourd'hui.
Oui, bah, parce que du coup, nous, tous les danseurs qu'on recrute à Swag Studio viennent d'ailleurs. Donc ils ont des histoires différentes, des situations différentes, des origines différentes. On a 10 danseurs à Belleville qui viennent du Mali, d'Ukraine, de Russie, de Madagascar, du Mexique. Et là, 4 à Marseille qui viennent aussi, Brésil, Colombie, Guinée. Et notre projet, nous, c'est déjà de mettre en avant et de valoriser ces talents-là et de faire en sorte qu'ils puissent... briller, surtout qu'ils puissent vivre de leur talent, parce que c'est pas forcément évident quand t'es artiste plus étranger, que t'as cette double casquette d'avoir une vie stable en France, quoi. Donc nous, on essaye d'accompagner tous ces profils à la stabilisation en aidant sur toutes les démarches administratives, même logement, etc. Et c'est aussi du coup de valoriser la multiculturalité, de dire il y a des talents ici qui sont incroyables et qui pourtant sont discriminés pour leur origine et pour leur statut administratif, quoi. Et ça n'a aucun sens parce qu'ils ont toute leur place ici et il faut qu'on leur fasse la place. Et il faut qu'on prenne vraiment à bras le corps cette question de l'accueil. Parce que voilà, politiquement, ça se referme de plus en plus. C'est un sujet qui suscite de plus en plus de crispations. Et si on ne propose pas une autre vision de l'accueil des étrangers en France, bah on va avoir des gros problèmes. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Il y a de plus en plus de personnes qui vont venir. Et voilà, et on sait que repousser les gens et refuser de donner des papiers, d'essayer de ramener aux frontières, ça marche pas. Donc il faut qu'on essaye d'intégrer et du coup de prendre un les personnes en essayant de voir leur talent et ce qu'elles ont à apporter. Et nous, du coup, on se concentre sur les personnes qui ont le talent de la danse pour leur permettre d'en vivre et de le partager aux autres.
Du coup, là, on a sauté une étape. donc, ce qui est trop intéressant, j'ai plein de questions par rapport à ça, mais est-ce que... parce que je t'ai un peu coupé en fait. Tu étais en train de raconter ta rencontre avec Chloé et comment cette idée est venue à vous.
Oui, parce que Swag, d'abord, c'est une rencontre, puis un constat, mais d'abord la rencontre avec Chloé.
Oui. Alors, du coup, Chloé, je l'ai rencontrée au Centre des Arts Vivants, au moment où j'ai commencé la danse. Et on était amis, mais en fait, notre relation, elle s'est vraiment construite autour du projet. Quand elle m'a rejoint, du coup, j'ai démarré le projet en 2020 avec cette intention de valoriser des danseurs qui venaient d'ailleurs. Et le projet, en fait, il a démarré... en fait, le projet a démarré dans une cave.
Clairement.
Voilà, c'est un peu cliché des projets entrepreneuriaux qui démarrent dans une cave. Mais voilà, en fait, à ce moment-là, en 2020, j'ai rejoint une association qui s'appelle Caracol et qui organise des colocations entre personnes réfugiées et personnes locales. Et en fait, ils valorisent des bâtiments qui sont laissés vacants pour créer des colocations multiculturelles et transformer les lieux vides en lieux de vie. Et donc moi, j'ai rejoint l'association en 2020 sur la base de ce projet, de ce projet Swag Studio qui n'existait pas encore, que je voulais monter. Et c'est pendant l'année où j'étais du coup dans cette coloc, on était 26 colocataires dans un immeuble entier dans le premier arrondissement de Paris. Donc c'était une expérience assez unique. Et pendant cette année-là, du coup, j'ai rencontré Soumaïla, qui est le premier danseur de Swag Studio, qui est du coup un danseur d'afro incroyable qui du coup a suivi direct dans le projet, quoi. Et donc de là, avec un peu l'idée du projet et Soumaïla et les premiers danseurs que j'ai rencontrés, j'ai organisé les premiers cours, donc dans la cave de Caracol, avec les premiers élèves des cours qui étaient donc mes colocs. Et en fin de compte, ça s'est fait assez rapidement parce que Donc là, on est en janvier-février 2021, donc deuxième confinement. Il n'y a rien à faire partout en France. Enfin, c'est hyper morne. Mmh. Et du coup, le fait d'avoir commencé à organiser les premiers cours de ce projet, de faire de la danse un vecteur d'inclusion, bah, en fait, ça a créé un mouvement, ça a créé une dynamique, ça a créé une joie. Et du coup, il y a une communauté qui a commencé à s'agréger autour du projet. Et ça fait que on a toujours connu une croissance assez organique parce que bouche à oreille, en fait, les gens venaient, j'en revenais. Du coup, des premiers cours à la gaffe, bah, j'ai commencé à louer des salles un peu à droite à gauche et on a commencé à avoir un, puis deux, puis trois cours réguliers par semaine. Au bout de quelques mois, je parle à mon mentor de l'époque, Luca. Si tu entends cette émission, merci encore et je t'embrasse. Je lui dis, si on veut développer le projet, il faut qu'on ait un lieu. Mmh. Et il me dit, donc voilà, l'asso existait depuis 5 mois, il y avait quelques cours et quelques cours hebdomadaires dans des salles annexes que je louais et 3 danseurs. Et il me dit, c'est un peu tôt, mais si tu veux vraiment faire ça, je t'aiderai. Et donc, moi, j'ai pris mes petites économies. Lui, il m'a prêté aussi un petit peu d'argent. Et on a tout mis ensemble. Et du coup, j'ai commencé à chercher un local sur le marché parisien.
Okay, pas une mince affaire, quand même.
Pas une mince affaire, quand en plus, t'as...
Plein d'écoles de danse. Non,
ouais, bah en fait, t'as quasiment pas d'argent et surtout, t'as une asso de 5 mois, t'as pas de bilan à présenter et tu dis aux gens, ce local, je veux en faire une école de danse urbaine. Donc, ils sont en mode, ah, hip-hop, oula, ça fait du bruit, ça. Ou alors, soit ça, ils veulent pas qu'il y ait des cours, enfin voilà, soit ils veulent pas que ce soit un studio de danse, soit ils rigolaient un peu parce que l'asso, elle avait aucune crédibilité, on était beaucoup trop jeunes, quoi. Mais bon, à force de ténacité, j'ai fini par... trouver du coup un propriétaire qui a accepté notre dossier, qui nous a dit oui. Et en fait, à ce moment-là, Chloé, elle soutenait un peu le projet depuis le début parce qu'elle venait au cours. Et en fait, elle n'était pas encore dedans, mais elle m'encourageait beaucoup. Moi, j'avais un énorme complexe de... enfin, un complexe de l'imposteur, quoi.
Le fameux.
Le fameux, de monter une école de danse sans être danseuse moi-même. Et Chloé, et je n'osais pas le dire, même à des amis à moi qui étaient danseurs, etc. Et Chloé, elle me disait, mais trop pas, c'est trop bien comme projet et tout. Et donc, elle venait au cours. Et on avait commencé elle m'avait aidée sur un projet. On avait travaillé ensemble sur un projet vidéo à ce moment-là, au moment où du coup, je cherchais le local, à l'été 2021. Et quand j'ai trouvé le lieu, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Chloé, tu sais pas où j'ai trouvé le local? C'est genre à 20 mètres de chez toi. Et vraiment, c'était la porte à côté. Et Chloé, à ce moment-là, elle venait d'être... En fait, elle était en dispo professionnelle, quoi. Et on a vu que ça marchait hyper bien entre nous, du fait d'avoir commencé à essayer d'un peu de travailler ensemble. Et donc voilà, je lui ai dit, rejoins-moi. Et à partir de ce moment-là, elle a rejoint l'aventure et on a ouvert le studio de Belleville ensemble, qui était du coup un local qui n'était pas du tout un studio de danse, qui était un local de thérapie par les chats, qu'on a... ouais.
Ça, c'était donc l'ouverture en 2021.
Ouais, ça, c'est à Belleville en 2021. Et donc là, on a fait les travaux ensemble, on a posé le parquet, les miroirs. Tout. Et on a fait.
Et ça, c'était avec les économies de toi et Luca.
Ouais.
Ok.
Vous avez pas grand-chose. D'autres financements ?
Non.
Non, du coup.
Non. Que ça. Donc, ça représentait en tout 16 000 euros. Et donc, dans les 16 000 euros, t'as les travaux du studio plus les frais d'agence. Parce que quand tu passes par le marché des agences immobilières à Paris.
Sans le loyer, du coup.
Oui, sans le loyer. Et juste les frais d'agence, ça représente les 3/4 des 16 000.
Waouh.
C'est énorme. Mais en fait, on a fonctionné avec ça. Ça, c'était la mise de départ. Et depuis le début, on fonctionne en autofinancement.
Et bravo.
Merci. Bah, en tout cas, on a réussi à perdurer jusque-là. Et au-delà de perdurer, enfin voilà, non seulement on a fait tenir le projet, mais en plus, on l'a développé. Donc c'est ça qui est cool et c'est ça qui nous emmène à Marseille du coup aujourd'hui, quoi.
Parce que du coup, ce studio-là, donc à Paris, marche seul, ça y est.
Ah, seul, ça marche jamais seul.
Parce que tu nous disais tout à l'heure en échangeant que Chloé, elle, est toujours sur Paris. Donc, est-ce que c'est elle qui gère ce studio à Paris, qui va continuer à le gérer ?
Oui, Chloé, elle va être essentiellement sur Belleville. Après, en fait, nous, on a tellement d'activités, il y a tellement de branches différentes que finalement, la gestion du studio, c'est pas ce qui nous prend le plus de temps. On a recruté aussi Charlotte cette année, qui du coup, elle a de plus en plus la gestion du studio à Belleville. Et Chloé et moi, bah, du coup, nous, on travaille ensemble sur le développement et sur aussi les projets, les programmes sociaux. Parce qu'au-delà du studio, on fait aussi des cours à des femmes en situation de précarité, des personnes en situation de handicap. Cette année aussi des enfants placés. Et donc tout ça, c'est des programmes.
Vous faites de la réalisation, de la vidéo, des team building, initiations, séminaires, partenariats.
Ouais, on fait aussi beaucoup d'événementiels.
Donc c'est énorme.
Mais c'est votre première source de revenus ou pas du tout?
Le Swag Studio?
Ouais.
Ah oui, on en vit.
Ouais, voilà, toutes les deux.
Oui.
Ok.
Ouais, et du coup, maintenant, on a recruté Charlotte presque à temps plein. Et là, à Marseille, on recrute Nila et Bérénice qui vont être co-responsables de lieu. Donc, 5 personnes dans l'équipe projet. Et donc, oui, on fait pas mal de choses parce qu'il y a le studio et du coup, maintenant, les studios, l'événementiel, parce que du coup, on fonctionne en autofinancement depuis le début. Donc, on fait aussi des événements en entreprise sous forme de team building, séminaire. Et l'idée, c'est d'aller faire danser les gens et d'apporter aussi notre modèle de cohésion par la danse dans des entreprises, et c'est trop cool parce que c'est un autre public aussi pour nos danseurs. Et en fait, t'en as certains quand on a fait une fois un team building avec Hermès, et on a emmené Soumaïla. C'est Soumaïla qui le faisait parce que lui, c'est la star, il est tellement solaire, contagieux, il embarque tout le monde. Et il savait même pas ce que c'était Hermès. Et en fait, et c'est quand même
c'est
lui le
mieux, non,
c'est ok.
Et oui, ouais. Et en fait, c'est lui le patron, tu vois. Enfin, et ça, c'est trop bien aussi pour le fait de mixer des, enfin voilà, de mélanger les publics. Et là, pour le coup, dans ce contexte-là, d'inverser aussi un peu les rapports de pouvoir, parce que du coup, c'est Soumaïla qui leur enseigne, quoi. Donc voilà, et donc ça participe à notre modèle économique. Donc voilà, studio, événementiel. Il faut aussi de la production vidéo. Et ça, du coup, c'est pour des structures qui veulent communiquer leur mission sociale et pour lequel, ce qu'on leur propose de faire via la danse. Et donc là, on leur propose une réalisation vidéo en mettant la danse au service du message qu'ils veulent communiquer. Et on fait tout, la scénarisation, la direction artistique qui est assurée par Chloé. Et voilà, tournage, montage qu'on fait avec Amélie Moreau, qui est une amie proche, qui habite à Marseille et qui est incroyablement forte. Donc on a développé ce volet de production vidéo. Et après, les événements, des événements qu'on fait aussi en faveur de notre communauté, qu'on organise nous, et qui sont là aussi des événements qui sont plus politisés, plus engagés. Notamment notre gros événement annuel qui s'appelle Swag Outside, danser contre l'exclusion. Et là, le principe, c'est un événement qu'on a fait initialement en réponse à la loi Asile et Immigration, pour porter une vision différente de la migration en faisant danser les gens ensemble. Et donc ça, c'est un événement qu'on organise tous les ans à Belleville maintenant, où il y a des shows de danse, des workshops, des prises de parole, un village associatif, et donc qui a pour fonction de rassembler tout le monde au cœur de l'espace public pour porter un regard différent sur la migration en faisant danser les gens ensemble.
Ouais, puis c'est chouette aussi de se dire c'est important de manifester, mais c'est aussi bien de danser ensemble pour une cause. J'aime pas dire trop contre une cause, mais en tout cas pour une cause, je trouve ça.
Ouais.
Là, vous avez la date pour la prochaine
C'est quand?
Alors cette année, on n'aura pas un Swag Outside, on en aura probablement deux. On aura notre Swag Outside habituel qu'on fait sur le boulevard de Belleville, qu'on fera cette année, du coup en 2025, probablement pas au mois d'avril, mais au mois de juin. Et on aura aussi probablement un second événement au mois d'avril, qui sera un peu sur le même format, qu'on fera en collaboration avec la Gaîté Lyrique.
À Marseille.
Okay. À Paris.
Ouais.
Voilà, et tous les événements qu'on va faire à Marseille, parce qu'on a aussi vocation à dupliquer ce format à Marseille. Et même chose, hein, et à faire danser les gens ensemble, dehors, dans l'espace public, pour parler d'accueil et pour parler différemment de migration en faisant danser les gens ensemble. Et donc, on va aussi faire ça à Marseille, bien sûr. Je ne sais pas encore où, je ne peux pas encore vous donner de date, mais ça arrive.
En tout cas, toujours avec ce message de bien vivre ensemble, de tolérance, d'inclusion.
Oui.
Et ça, c'est sûr que c'est important, surtout dans le contexte actuel.
Bah oui.
Mais du coup, est-ce que Marseille, c'était ton idée ? Est-ce que c'était une idée que vous êtes rejoint avec Chloé, justement, sur le sujet, en se disant « Ah ouais, super, on a un petit coup de cœur pour cette ville. Bon, toi, je sais que tu viens d'ici. » Mais voilà pourquoi cette ville n'est pas une autre.
Oui, Marseille, c'était assez évident. Bon, déjà, parce qu'effectivement, moi, j'ai toute ma famille ici, j'ai mes meilleurs amis et une partie des personnes avec qui on travaille depuis le début à Swag Studio, notamment Amélie, qui est notre cadreuse monteuse qui travaille avec nous sur tous nos projets vidéo, Jeanne, qui travaille sur notre SEO, et toutes ces personnes-là, elles sont basées à Marseille. Mais aussi parce que Marseille, c'est une ville qui est extrêmement raccord avec nous, la philosophie et le projet social qu'on porte, quoi. Parce que c'est une ville qui est hyper multiculturelle, parce que c'est une ville où il y a des talents incroyables, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent et qui ont besoin aussi d'avoir un appui, enfin de pouvoir vivre de ce qu'ils font sans forcément monter à Paris, parce qu'il y a énormément de danseurs pour travailler plus. Ils montent à Paris et donc ici il y a plein de trucs à faire ici et culturellement, c'est une ville incroyable,
Et votre communauté parisienne, elle vous a suivi sur votre projet à Marseille, ou comment vous fonctionnez? Vous créez une autre communauté à Marseille ou c'est une même communauté? Aujourd'hui d'ailleurs, il y a plus de 5000 personnes qui vous suivent, tu nous disais.
Oui, sur Instagram maintenant, plus de 6000.
Ok. 6000, une, deux.
Et il y a une communauté Swag Studio. Ouais. Parce que nous, on a aussi vocation à développer le projet. Pour nous, c'est pas un studio de danse, c'est un mouvement.
Ouais.
C'est ça, en fait.
C'est un mouvement d'inclusion par la danse. Et donc là, aujourd'hui, on est à Belleville, à Marseille, mais peut-être que demain, on sera à Toulouse, peut-être qu'on sera à Strasbourg. Il y a aussi des gens qui peuvent nous dire, moi, j'ai envie de porter le projet, je sais pas, à Lille. Et du coup, let's go, on les accompagne. Et donc oui, pour nous, on voit ça plutôt comme la communauté qui s'agrandit. Mais après, la communauté initiale qui était celle de Belleville nous soutient énormément dans le développement du projet. Là, du coup, on est en plein crowdfunding pour lever des fonds pour financer l'ouverture de Marseille. Donc, on est en train de récolter, en tout cas, on a un objectif de 20 000 euros pour nous aider à financer ce nouveau lieu, les travaux, etc. Parce que c'est un lieu qui est quand même deux fois plus grand que ce qu'on a à Belleville. Et avec beaucoup de travaux à faire et un ticket d'entrée assez cher. donc on s'appuie sur notre communauté pour nous aider à financer ça. Et la communauté de Belleville nous soutient énormément, a beaucoup donné sur le crowdfunding, alors que il y en a peut-être, ils viendront jamais à Marseille.
Parce que est-ce qu'il y a une adhésion à l'année? Est-ce que comment ça fonctionne quand à Paris par exemple? Est-ce que vous procédez par carte ou à l'unité?
T'as trois modalités possibles. Tu peux venir à l'unité. Et là, du coup, nous, on essaye de proposer quand même des tarifs qui soient accessibles pour tout le monde. On est à 16 euros le cours à l'unité à Paris pour 1h30, Marseille 15. Et après, les tarifs sont dégressifs quand tu t'abonnes. Donc tu peux t'abonner en mensuel. Et là, du coup, les tarifs, ils passent à 12,20 le cours. Ce qui est quand même hyper cool. Pour un studio à Paris où en plus on est quand même on a quand même vocation de, enfin on a à cœur de rester à taille humaine, parce que nous on a 15 personnes maximum dans le studio, on fait pas de l'usine, il y a pas 80 personnes, enfin l'idée c'est vraiment de créer une atmosphère qui soit confortable pour les élèves, pour que chacun puisse aussi poser ses questions, que les gens puissent se connaître, enfin donc on essaye quand même de faire quelque chose d'assez qualitatif. Donc voilà, ton cours il tombe à 12,20 quand t'es en mensuel et après l'abonnement annuel, tu peux t'inscrire à l'année. Là, ça tombe autour de 10 euros par cours.
Ok.
Et donc là, les danses que vous proposez, donc c'est reggaeton, afro, break, hip-hop et en langue de signe, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est pour la programmation à Marseille. Marseille, il y a une nouveauté, c'est qu'on va travailler pour la première fois avec un danseur qui n'est pas étranger, qui est marseillais, qui s'appelle Pierre Zettner et qui a la spécificité de travailler avec des publics en situation de handicap. Et lui, en fait, il a développé toute une pédagogie pour danser avec les publics sourds et malentendants. Et donc, il a une pratique de danse en langue des signes. Danse et langue des signes. Mais il a cette approche-là dans ses cours. Et ses cours ne s'adressent d'ailleurs pas qu'à des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi aux entendants. Et l'idée, c'est à la fois de sensibiliser au handicap, d'apprendre une nouvelle langue aussi, une nouvelle façon de communiquer. Mmh. Et en fait, de créer du lien entre tout le monde, quoi.
Et il y a une salle aussi, contrairement au studio de Belleville, à Marseille, il y a une salle dédiée apparemment, de ce qu'on a compris, pour que les gens puissent se retrouver, les danseurs puissent échanger après les cours, avant les cours. Et ça, c'était une vraie volonté de votre part.
Oui. Oui,
un salon, quoi.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire un espace qui soit un peu comme à la maison, qui soit dédié à la communauté, où c'est pas juste tu viens, tu prends ton cours, tu pars. Mais il y a un vrai espace qui est dédié à l'accueil, à l'échange, à la rencontre. Et donc, à Belleville, on n'a pas d'espace qui est dédié pour ça. Mais du coup, on a notre café qui est juste à côté où on se retrouve souvent pour boire des coups après les cours. Parce qu'il y a quand même, cet esprit de communauté là à Paris aussi, même si on n'a pas l'espace pour. Donc très souvent, on va aux pioles de Belleville qui sont... Nos partenaires The People, on les adore. On fait souvent nos soirées chez eux d'ailleurs. Et là, à Marseille, ce qui est trop cool, c'est qu'on a cet espace-là pour le faire. On a un grand studio de 90 mètres carrés, plus un grand espace qu'on a tout ouvert. En fait, c'est là l'essentiel des travaux, en fait, parce qu'on a cassé les cloisons. Et là, du coup, on installe des canapes, une machine à café. Et puis c'est comme un... Enfin, tu vois, tu peux venir boire un café, t'as une petite tirelire si tu veux, tu mets 50 centimes pour aussi... Enfin, tu vois, pour faire vivre ça comme un espace en autonomie, un espace associatif en fait, en fin de compte. Et où les gens sont invités
à se retrouver, ouais. Dans une ambiance conviviale, à créer du lien aussi au-delà de la danse.
Ouais.
Et puis à se responsabiliser aussi. De ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi, sans qu'ils aient forcément besoin que vous soyez là, enfin, tu vois, il y a quand même un côté, on se retrouve et si, tu vois, ils veulent discuter de... Enfin, c'est quand même un salon qui est ouvert, quoi.
Ouais.
Sans forcément faire les cours de la journée. D'ailleurs, les cours, ce sont le soir.
Oui, ouais. Soir et week-end. La journée, on essaye de développer aussi des programmes qui sont à destination des publics qui ne peuvent pas forcément venir sur les cours open. Donc voilà tous les programmes qu'on a avec les enfants en situation de polyhandicap, femmes en précarité. Ça, c'est des programmes dédiés qu'on peut avoir la journée. Et c'est aussi ce qu'on va développer à Marseille.
Est-ce que les personnes que vous allez... Est-ce que vous allez démarcher des associations du territoire ?
Ah bah oui.
Ouais. Et du coup, vous leur parlez du studio et...
Bah oui, et l'idée... en fait, le principe, c'est aussi que ce lieu, il soit aussi pour eux. L'inclusion par la danse, c'est pas que inclure des danseurs étrangers, c'est aussi d'inclure le plus de publics différents possible. Et du coup, pour ça, à Marseille, on va avoir aussi la spécificité de proposer un système de cours suspendus. Donc ça veut dire que tous les publics plus vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, pourront venir au cours à tarif réduit. Mmh. Donc au cours à l'unité, 10 euros au lieu de 15. Et en abonnement mensuel, ça tombe autour de 6 euros.
Ouais, donc ça devient vraiment accessible
à
tous.
Oui, oui. Et ce système, du coup, peut être compensé par les autres élèves qui peuvent rajouter librement 1 euro, 2 euros sur leur inscription. Pour avoir un système vertueux, quoi, qui s'équilibre au sein de la communauté.
Et est-ce que tu as eu des doutes ? Parce que quand même, les filles, quoi, bravo, enfin, vous avez monté ça à Paris, c'est vraiment pas la ville où je vous aurais dit « let's go ». Et là, à Marseille, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as été prise de doutes ? Est-ce que vous avez été, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, le stress qui prend le dessus ou En tout cas, tu as l'air vachement sereine à quelques jours de l'ouverture. Franchement,
parce que l'ouverture, c'est samedi prochain.
Ouais,
samedi
ouais. Là,
dans 4 jours.
Aïe, aïe, aïe.
Ce n'est pas du tout prêt. Mais, non, mais ce sera magnifique. Bah oui, bien sûr que tu as du stress parce que déjà, c'est un énorme risque financier. Nous, on n'a pas des subventions de structures extérieures qui viennent nous donner 30 000, 50 000 euros. Enfin, on fonctionne vraiment quasi exclusivement en autofinancement depuis le début. Les seules subventions qu'on a, c'est du coup pour les publics précaires pour lesquels on fait des programmes dédiés, donc les enfants en situation de polyhandicap, les enfants placés, etc. Mais si ça, sur la grande majorité du coup de notre équilibre, c'est nous en autofinancement. Donc, il faut le financer. Le budget pour ouvrir ce lieu, il se chiffre à autour de 40 000 euros. Là, on a fait un crowdfunding pour faire appel à notre communauté pour nous aider sur la moitié, donc avec un objectif de 20 000 euros. Bah, le stress, tu ne sais pas si tu vas atteindre ton objectif, mais le lieu, tu l'as déjà signé. Donc, quoi qu'il se passe...
C'est too late.
Voilà, trop tard.
Les travaux ont déjà bien pris forme.
C'est
lancé quoi.
Ah oui, les travaux, on a assez peu de temps pour les faire. Le stress d'ouvrir deux lieux en même temps, parce que du coup, y a la rentrée à Belleville qui s'est faite début septembre, et l'ouverture de Marseille, là, début octobre. Et donc en fait, ça fait énormément de chantiers en parallèle pour... trois personnes maintenant, donc Chloé, Charlotte et moi. Là, à Marseille, il y a tout à faire. Il y a les travaux. Chloé, qui, elle, a la casquette chef de chantier, est beaucoup moins à Marseille que moi, parce que l'idée, c'est que ce soit plutôt moi qui soit en charge aussi de l'antenne Marseille, enfin, en tout cas, à minima entre les deux. Bah, Chloé, en fait, qui est trop forte sur toute la partie chantier, travaux, elle n'est pas sur place, et du coup... En fait, il faut qu'on arrive à gérer ça. On a recruté toute une équipe de potes, de gens qui avaient envie de nous donner un coup de main. Mais même des gens qui ne nous connaissaient pas à l'origine. Hein. Et donc, tu dois coordonner les chantiers participatifs. Tu ne sais pas si tu seras dans les temps, clairement, parce que quand tu fais des chantiers, tu as toujours des surprises. Et voilà, donc il y a tout à lancer, mais après, donc bien sûr que parfois t'es en stress parce qu'il y a énormément de trucs à faire en parallèle. Rien que lancer une campagne de crowdfunding, c'est limite un travail à soi parce que tu contactes la presse. Enfin, après, c'est génial, c'est pour ça aussi que je suis avec vous aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai que tu disais que c'était hyper fatigant.
Bah oui,
parce que une campagne de cette envergure.
Bah, tu dois déjà 20 000 euros, c'est énorme pour un crowdfunding. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est beaucoup quoi. Donc en fait, tu dois appeler la terre entière pour dire salut, est-ce que tu veux nous soutenir? Et puis tu fais des posts, et puis Instagram, il y a LinkedIn, et il y a la presse, et il y a tous les gens que tu connais.
C'est une casquette quoi. Ouais.
Oui, voilà. Mais ouais. Ça, c'est notre spécificité avec Chloé, c'est que c'est comme ça qu'on se définit tout le temps, c'est couteau suisse quoi.
Peut-être vous êtes complémentaires aussi.
On est hyper complémentaires. On a vraiment des compétences qui sont très larges en fait quand tu mets tout bout à bout, parce que Chloé elle est designer de formation, donc elle est hyper bonne sur toute la partie création graphique, la direction artistique, et après toute la partie manuelle, chantier, etc. En même temps, elle a aussi des compétences humaines qui sont hyper précieuses. Elle est très fine psychologue et ça, elle me complète aussi beaucoup sur ça. Et donc aussi en termes de pédagogie, de gestion des équipes, de gestion des partenaires. Là, elle est aussi en charge de la plupart des programmes handicap qu'on a à Belleville. Et moi, je m'occupe plus de la partie développement, de la partie un peu plus business, aussi les finances, l'administratif, le développement partenariat et la communication et toute la partie aussi écrite.
C'est vrai que ça fait beaucoup. Et, et donc, on est dans l'émission ici, on s'écoutait. L'écoute dans tout ça, elle a quelle place dans vos vies à toutes les deux? Alors, peut-être tu peux parler en ton nom. Parce que c'est vrai que vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de chiffres. C'est aussi gérer des relations. comment vous gérez ça, les relations dans votre collectif, dans votre entreprise, et puis le rapport à votre écoute aussi, de rester aligné, pour en revenir à ce que tu disais en début d'émission, de rester à ton écoute au fur et à mesure que le projet prend de l'envergure.
Ça, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait, parce que déjà, effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de charges, on parlait du stress, y en a énormément, et en même temps, on ne peut pas se laisser dépasser par ça, parce que clairement, on n'a pas le temps. Tu ne peux pas commencer à te faire avoir par ton mental, sinon c'est mort. Donc, y a beaucoup de charges qu'on porte, mais ce qui nous permet de le faire, c'est que justement, on est très à l'écoute l'une de l'autre. Et on soigne énormément notre relation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a développé et sur lequel moi, j'ai beaucoup grandi aussi personnellement dans le fait de travailler avec Chloé. Je pense qu'avant, j'étais peut-être plus un bourrin. Et maintenant, je me sens plus intelligente émotionnellement aussi du fait de travailler avec Chloé et du fait qu'on a beaucoup appris à communiquer, à s'écouter. Et on soigne vraiment notre relation au quotidien, parce que c'est vrai que c'est pas évident de travailler en duo. À la fois c'est génial parce que tu peux avancer beaucoup plus, tu peux pas porter,
c'est plus de force, mais c'est plus d'émotion aussi peut-être.
Ouais, bah oui, et du coup en plus on a des caractères super différents. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on a appris à se connaître déjà autour de ce projet. Parce que c'est pas comme si on n'était pas amis d'enfance ou quoi. Notre relation, elle a vraiment démarré autour du projet. Et en plus, en ayant des compétences différentes, mais surtout aussi des caractères différents, fait qu'on a dû faire ce travail-là, parfois dans la douleur, mais en fin de compte beaucoup plus finalement proportionnellement dans la joie, parce que on est hyper reconnaissante de ce qu'on s'apporte mutuellement, et ça on en prend la mesure tous les jours.
Moi je trouve ça très inspirant en effet comme tu dis, vous n'étiez pas amis d'enfance, c'était quand même un pari, vous êtes devenus presque amis et associés en même temps presque.
Ouais, et mariés.
Et tout. mais je trouve ça très inspirant.
C'est une grande aventure humaine qui est inspirante. Ouais. Pour les auditeurs aussi qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de se lancer, mais qui ont des peurs, qui ont des craintes, se lancer tout seul ou avec quelqu'un, est-ce qu'il faut connaître absolument la personne par cœur, ou est-ce qu'on peut découvrir une personne à travers un projet? Est-ce que ça, c'est possible? A priori, oui.
A priori, oui.
Tu peux. C'est juste que moi, ce que je conseillerais, c'est de se faire accompagner. Parce que nous, ce qui nous a aussi beaucoup aidé à faire fructifier notre relation, c'est que dans les moments où ça allait pas, où on a eu des frictions, des tensions, des choses qui faisaient que d'un coup on était bloqué, parce qu'en fait quand t'es brouillé avec la personne avec qui tu travailles, t'as même plus envie de travailler, tu vois, plus rien n'a de sens, c'est très compliqué de travailler. Et du coup, nous, dans les moments où ça allait pas, on s'est fait accompagner par une personne qui est incroyable, qui s'appelle Victoria Valroff, que je salue aussi en même temps, et qui nous a aidés à travailler sur nos compétences d'écoute et de communication. Et ça nous a fait prendre énormément de maturité.
Quel est son métier à cette personne qui...
Alors, elle est médiatrice.
Ok.
Est-ce qu'on pourrait appeler coach, mais ça veut tellement rien dire aujourd'hui. En tout cas, si elle est coach, c'est une très très bonne coach. Mais on peut dire médiatrice.
Ok.
Ça nous a fait extrêmement grandir, et ça nous a fait apprendre énormément sur la façon de gérer des relations humaines. Et donc moi, ça, c'est ce que je conseille aux personnes qui entreprennent et surtout parfois qui sont en duo. C'est dès qu'il y a des tensions, avant même que ce soit la crise, c'est bien de se faire accompagner. Pas que parce que ça résout des problèmes, mais aussi parce que ça permet de mieux fonctionner et de devenir plus intelligent.
Vous êtes fait accompagner aussi par d'autres structures pour le lancement de votre projet, la création et puis le développement?
Oui,
il y en a énormément à Marseille.
On est passé par trois incubateurs en tout depuis le début du projet. Au tout début, avant que Chloé me rejoigne, Moi, je suis passée par l'incubateur de l'ESCP, qui d'ailleurs, l'école que j'ai faite et qui m'a un petit peu réconciliée avec cette école, parce que pour le coup, c'était vraiment un bon incubateur qui est géré par Maeva et qui m'a beaucoup portée au moment où le projet n'existait pas encore, dans la phase d'idéation, et c'est ça qui, moi, m'a permis de me lancer. Ensuite, j'ai fait l'incubateur de Singa.
Ah oui.
Voilà, que vous connaissez, qui est Singa, qui est une association qui travaille à la création de liens entre nouveaux arrivants et personnes locales, et qui est un incubateur qui incube des projets soit portés par des personnes réfugiées, soit par des locaux, mais qui sont en lien avec une thématique de migration. Le SCP, Singa, et puis l'année dernière, l'incubateur de Live4Good, que je recommande énormément parce qu'ils sont géniaux. Et ça, évidemment, ça aide aussi énormément dans une trajectoire entrepreneuriale.
Pour structurer, oui.
Ouais. Et pour être en lien avec d'autres entrepreneurs.
Oui, c'est ça, rencontrer d'autres gens, avoir des conseils. Ouais, carrément.
Et petite question, swag, qu'est-ce que ça veut dire? Ce truc que je peux partager avec toi, je crois. Mais en anglais, voilà. Et puis peut-être la petite traduction. Ouais.
Share what heart gives. Bah, ça, c'est une traduction qu'on a donnée parce que swag, du coup, tout le monde connaît cette expression, mais c'est méga ringard, en fait, comme expression. C'est un truc. Ah, là, tu te dis ça en 2010, quoi. Mais le clin d'œil à ça, c'est que à la fois, tout le monde sait ce que ça veut dire et à la fois, personne ne sait ce que ça veut dire. Parce que chaque communauté a donné un peu sa définition de ce que ça voulait dire. Et donc, tu avais les communautés LGBT qui disaient que ça veut dire « secretly we are gay ». Secrètement, nous sommes tous gays. Communauté noire afro-américaine qui disait que ça voulait dire « something white and got », ce truc que les blancs n'ont pas. Et du coup, moi, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette expression un peu ringarde et qui a que des définitions finalement assez excluantes selon les communautés pour en donner une définition plus ouverte qui est « share what heart gives », « partage ce que l'art donne ». Et donc ça veut dire, en vrai, le style c'est rien si tant que t'es pas dans le partage, quoi.
Trop bien.
Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui veulent peut-être se lancer dans un projet qui leur tient à cœur? Ça serait quoi le conseil ou les conseils que tu aurais à donner à l'antenne?
S'écouter.
Olé. Une bonne réponse.
Non, mais... Bah, foncez. Hein. Moi, je suis très partisane de cette approche. Enfin, let's go. T'as pas besoin de faire 36 études de marché. Enfin, la méthode que tu vois, je sais pas, dès que tu recherches un peu sur Internet, enfin, tout ce qui est enseigné de façon académique, les étapes par lesquelles tu dois passer avant de lancer un projet. Bon, moi, ça, j'y crois pas trop. Enfin, j'ai jamais fait d'études de marché avant de commencer swag, quoi. Faut écouter un peu son instinct. Et puis surtout, faut pas attendre. Parce que moi, ce qui m'a aidé à me lancer, c'est aussi quelque chose que j'avais lu qui disait que le plus tôt, le mieux. Parce que moi, au début, j'avais peur parce que j'avais pas énormément d'expérience. Voilà, je sortais d'études et j'avais travaillé un petit peu avec cette boîte en Côte d'Ivoire. Mais j'avais assez peu d'expérience professionnelle. Et je me disais peut-être qu'il faut que je travaille un peu plus longtemps pour avoir un peu plus d'expérience de ce que c'est que le monde du travail. Et en fait, du coup, j'avais lu ça, que en fait, plus t'attends, plus c'est difficile. Parce que après, t'es engagé dans d'autres responsabilités, t'as peut-être plus de choses à perdre, je sais pas. T'as peut-être, je sais pas, après, si t'attends d'avoir des enfants et d'avoir des crédits. Bon, moi, j'avais déjà un crédit pour le coup, donc c'est pas tellement ça qui m'a retenu. Mais. En fait, faut rien attendre du tout, faut y aller.
Écouter son instinct, ne pas attendre, croire en ses rêves, aller au bout.
Bien sûr.
Même quand c'est compliqué ou quand il y a des difficultés qui apparaissent.
Ouais, oui. Et puis là, c'en est un, mais il y en a plein d'autres encore à venir dans votre vie. Donc j'espère que on sera là aussi pour tout regarder et même participer à tout ça.
À la journée d'inauguration samedi, peut-être aussi.
Oui, grave.
Oui. Et pour soutenir aussi ce projet du coup de l'ouverture de Marseille, on a toujours le crowdfunding qui est en cours. Donc ça se trouve sur notre page Instagram. Et du coup, sur Instagram, on s'appelle Swag Studio, avec des petits points.
Trop bien, on relaiera l'information. Pauline, pour finir cette émission, est-ce que tu as une musique à nous faire écouter? Et si oui, qu'est-ce qu'elle t'inspire?
Oui. J'aimerais bien, j'ai choisi du coup Walk with Elephants, qui est le son sur lequel on a fait notre premier clip avec la communauté. Donc, pas vraiment notre premier clip, mais le premier clip professionnel, entre guillemets, le premier sur lequel on a commencé à travailler avec Amélie. Et donc, avec ce principe d'intégrer, nous, les élèves, sur des productions artistiques qu'on faisait, donc pas simplement des spectacles, mais là, du coup, dans un format un peu différent, de valoriser les élèves et leur travail en leur disant, en créant un clip vidéo, et donc un format artistique avec eux. Et donc, le premier qui a lancé finalement notre activité de production vidéo, avec du coup le trio clé de Chloé à la DA, Amélie, et Amélie à cadrage montage, bah du coup c'était ce projet là qui s'appelle Colors et qu'on a fait, qu'on a monté sur cette musique.
Merci beaucoup, merci pour ton temps et tout cet investissement et à bientôt tout le monde, bonne soirée.
Oui, merci beaucoup, très belle soirée et à dans un mois.
Merci beaucoup.
On se voit samedi à Swag.
Oui.